Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On garde, on débarre.
Il n'y a jamais de loi favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée de la politique et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu. Il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
Intellectuel et sans pouvoir. Et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not in a pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Mounier était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Michael Fossel, philosophe, choisit un texte de Pierre Klossowski, publié en 1938, et nous parle de communauté politique, de tentation fasciste et de fraternité.
Bonjour. Alors, le numéro que je cherche risque d'être un peu enseveli sous une certaine poussière, puisqu'il date de décembre 1938, là, le voilà. C'est un numéro de la revue Esprit, donc de décembre 1938, intitulé « Préfascisme français ». Et dont j'ai choisi de parler, non seulement pour le dossier, mais surtout pour un de ses articles, qui est un article qui s'appelle « Qui est mon prochain ?» et qui a été écrit par l'écrivain, philosophe et aussi d'ailleurs artiste Pierre Klossowski.
La passion du commandement absorbe toutes les ressources affectives. Nés pauvres ou de basse extraction, les chefs d'une pareille organisation sociale incarnent à merveille le malheur muet en puissance et par conséquent, pour avoir souffert jadis, assouvissent un besoin de faire souffrir, d'où toute sympathie, même négative, semble exclue. La masse des malheureux qu'ils dirigent répondent par une passivité dans laquelle ils ne persévèrent qu'en s'identifiant à leurs bourreaux. Ces derniers étant en quelque sorte des figures réparatoires de leur souffrance, parce que représentant la souffrance non pas sous sa forme transcendante, mais sous la forme impérative du malheur menaçant. Le fait d'obéir, le fait d'être la réalisation vivante et l'accomplissement de la volonté d'un tyran, procure aux jeunes gens qui ignorent toute autre forme de vie le sentiment d'exercer eux-mêmes cette volonté. Dès lors, les chefs réussissent ce miracle de mettre l'ascétisme au service de la voracité affamée. Ils imposent un régime de restrictions matérielles et morales qui porte l'existence des masses à une tension permanente entre le silence et l'explosion. Au sommet du malheur muet en puissance, le peuple totalitaire vit dans la fascination constante de sa propre mort. Sa propre mort même est devenu un agent de puissance. Sa propre mort, il l'inflige par la guerre, tel un cataclysme à ses ennemis, comme il l'a infligé à ses propres instincts de vie dans sa pratique d'une ascèse vindicative.
Alors ce texte, il est écrit par Pierre Klossowski, c'est un texte qui appartient à un dossier qui apporte beaucoup pour moi, qui paraît dans la revue Esprit en décembre 1938 et qui s'intitule « Préfascisme français ». Et il a plusieurs caractéristiques, à la fois ce dossier et dans ce dossier cet article. La caractéristique conjoncturelle, elle est importante, on est à la fin de l'année 38, qui est une année marquée en particulier par les accords de Munich qui ont lieu en septembre et qui manifestent la manière dont la démocratie française et anglaise d'ailleurs, c'est en quelque sorte abaissé à capituler devant le nazisme puisqu'on abandonne la Tchécoslovaquie. Et d'autre part, il y a aussi dans cette année-là, et en parallèle avec ces accords de Munich, ce qu'on pourrait appeler, alors si on reprend le terme utilisé par Mounier, une préfascisation de la France. Et donc, une série de décisions qui sont prises, on est sous un gouvernement post-Front républicain par Daladier, de mesures, disons, autoritaires, prises contre les étrangers, c'est-à-dire à ce moment-là essentiellement les juifs, contre aussi les syndicats, contre le Front populaire et son héritage, puisqu'on remet en cause toute une série de mesures sociales, les 40 heures qui avaient été acquises 2 ans auparavant. Et donc, c'est un dossier qui, en quelque sorte, il est rédigé au mois de décembre, fait le bilan de cette année terrible et choisi, et cet engagement aussi vaut pour aujourd'hui, je crois, de le nommer, c'est-à-dire prendre le risque de nommer la période qui est vécue, et il s'agit bien du pré-fascisme français et pas simplement d'une critique du fascisme existant par-delà les Alpes ou par-delà le Rhin. Alors on compte dans ce dossier des articles remarquables, mais j'en ai choisi un, celui de Pierre Klossowski, qui a cette particularité de ne pas, c'est le seul, évoquer directement la situation politique française, de ne pas l'analyser, je dirais, dans des termes qui sont des termes engagés politiquement, mais de faire quelque chose comme une réflexion plus ample et de ce point de vue-là peut-être aussi plus actuel sur la psychologie fascisante. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que une société finit par s'abandonner à la passion pour l'autorité, pour la violence et d'ailleurs il le dit dans le texte qui a été lu, même pour la mort, jusqu'à vouloir éventuellement sa propre mort. Pierre Klossowski, c'est cet auteur qui avait déjà entamé une réflexion plutôt dans les cercles d'ailleurs autour de Georges Bataille, de Gide aussi qu'il a bien connu, et un peu du surréalisme, une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler les affects politiques, et y compris dans leur dimension de violence. Il s'agit d'un texte qui, au départ, est un texte, on peut dire, d'intervention, puisqu'il a certainement répondu à une commande, à savoir qu'est-ce que sont ces puissances de haine qui commencent à, enfin qui ont déjà largement d'ailleurs envahi le champ géopolitique et qui commencent à s'installer en France. Et à partir d'un texte d'intervention, il fera une œuvre, puisqu'il écrira donc non seulement ce livre sur Sade dans les années 47-48, mais aussi une trilogie romanesque. Hein, Klossowski est quelqu'un qui travaille à la frontière de la philosophie, de la littérature et aussi des arts, puisqu'il était dessinateur et peintre, mais une trilogie romanesque qui s'appellera Les lois de l'hospitalité et qui, après la guerre, réfléchira là aussi sur cette espèce de dimension de rétractation de toute forme d'empathie, de sympathie et d'amour, en dernière analyse, qui a été, alors cette fois-ci, l'expérience de la guerre, qui évidemment en 38 ne peut être que présumé, mais que d'une certaine manière il annonce. Je ne dirais pas que c'est un texte prophétique, mais c'est un texte qui, à bien des égards, montre que cette passion pour le commandement qui s'empare même, ce désir de chef qui s'empare même des masses, de ceux qui ont à souffrir de la hiérarchie, de ceux qui ont le plus à souffrir de la violence qui leur est infligée, eh bien cette passion, il va falloir en quelque sorte faire avec, y compris pour ce qui est encore à venir en 38, c'est-à-dire la guerre, la défaite, l'occupation et le génocide.
L'aspiration au bonheur collectif, que les démocraties modernes prétendent représenter à l'encontre du type précédent, n'a cependant pas échappé à sa forme totalitaire. Ici, l'exclusion de la composante de mort au bénéfice de la composante de vie a exigé une compensation terrible. Ici, le malheur, au lieu de s'exprimer par une préparation collective à la mort violente, s'est traduit par la thérapeutique du travail pour le travail. Ici, l'instinct de vie, après avoir cherché à se dégager de l'instinct de mort, a dû l'admettre une fois de plus, et cela sous la forme du travail, qui censure la vie en purgeant l'homme de ses forces imprévisibles. La doctrine marxiste, qui a pour but l'élimination scientifique de l'ambivalence, c'est-à-dire la disjonction des composantes de vie et de mort, a de la sorte payé sa rançon au dogme du péché originel. Et le travail, après avoir été jugé le meilleur agent contre la religion opium du peuple, est devenu le véritable opium des masses malheureuses.
Alors dans ce texte qu'on vient d'entendre, au fond, il y a une réflexion de Klossowski, qui d'ailleurs est présente dans l'ensemble de l'article, sur la manière dont finalement, les démocraties ont tenté de, donc on est en 1938, ont tenté, mais à ses yeux de manière impuissante, de répliquer à la fascination fasciste ou totalitaire pour la mort. Et de ce point de vue-là, c'est un texte qui a beaucoup d'écho, y compris dans le présent, puisqu'il marque, au fond, les limites de la réaction purement, je dirais, morale face à la chute des démocraties, qui, au fond, se pose la question de savoir si les démocraties peuvent substituer des valeurs aux valeurs apparemment transcendantes, fascisantes ou même d'ailleurs communistes, c'est-à-dire à cette espèce de mythe sacrificiel qui traverse les régimes totalitaires au moment même où il écrit. Et dans le texte qu'on a entendu, il stigmatise, au fond, la réponse qui a été celle de la démocratie, et 1938 marque ça très bien, en France, je veux dire, la réponse qui a été de substituer à la mythologie du peuple, du sang ou de l'égalité dans sa dimension purement, je dirais, stalinienne, de substituer à cela le culte du travail pour le travail. Au fond, le choix de la vie dans les démocraties, dit-il, s'est en quelque sorte enfermé dans cette promotion de l'économisme. Et autant tout le texte consiste à montrer qu'effectivement, on ne peut répondre, si je puis dire, à la pulsion de mort totalitaire et particulièrement fasciste que par une valorisation de la vie, autant il met en garde contre le fait de valoriser dans la vie uniquement sa dimension productive, industrielle ou de recherche économique. Il va chercher dans le christianisme un autre concept de vie, donc aussi une autre manière d'être ensemble. C'est un texte fondamental, on y reviendra sur la fraternité. Et là, le texte, il est de ce point de vue extrêmement actuel par rapport à l'année où il est écrit, puisque, sans que Klossowski ne le rappelle, mais c'est présent dans le reste du dossier, c'est un moment où Daladier, donc le président du Conseil à l'époque, en renonçant à l'alliance de Front Populaire, va valoriser le travail. C'est-à-dire, il dit qu'il faut remettre la France au travail devant, sous-entendu, devant des peuples qui, eux, travaillent sous la main de fer du fascisme ou même du stalinisme. Et donc, il y a ce marquage très fort, qui d'ailleurs a engagé la revue dans son ensemble à cette époque-là, et qu'on a parfois mal compris, cette critique du parlementarisme qui est marquée par le fait que le parlementarisme s'accompagnait d'une sorte de grand récit mythologique selon lequel c'est l'économie, la production, l'acquisition de richesses, on dirait peut-être aujourd'hui simplement le pouvoir d'achat, qui pourrait en quelque sorte ramener les citoyens à une plus grande affection, si je puis dire, pour l'état de droit ou pour la démocratie. Il diagnostique déjà l'échec du libéralisme face à la montée en puissance totalitaire, précisément parce que le libéralisme repose sur le déni de ce qui dans la vie est plus grand que la vie, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici, lui, fraternité ou transcendance. Moi, j'ai rencontré ce texte parce que j'ai fait un travail sur l'année 1938 et donc je me suis astreint, ce qui n'a pas toujours été très agréable, à lire la presse de cette année-là en France, qui justement marque très bien ce que ce texte stigmatise, c'est-à-dire cette tentative de reconstituer au fond quelque chose comme une vocation française ou une vocation démocratique contre les périls nazis en particulier et fascistes, à partir simplement d'une valorisation du travail, de la production, au fond, de la prospérité. C'est un peu l'image qui est mise en avant par Klossowski, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un lien ou fonder un lien politique de résistance, en quelque sorte, au régime fasciste et à leur passion de l'ordre, uniquement sur la théorie du ruissellement, en quelque sorte, c'est-à-dire cette idée que finalement la réussite économique, la prospérité viendrait renforcer la démocratie, cette thèse un peu libérale du doux commerce, comme ce qui spontanément pacifie les relations sociales. Et non seulement Klossowski qui s'oppose à cette thèse et montre que la valorisation productiviste du travail et de l'économie n'est pas du tout incompatible avec des régimes autoritaires. Mais de ce point de vue-là, il me semble que ce texte fait aussi écho à une situation dans laquelle la désagrégation de notre lien à la démocratie s'appuie aussi sur cette valorisation inconditionnée de la réussite économique, cette idée que finalement la prospérité tient lieu non seulement de programmes politiques, mais de liens démocratiques entre les citoyens.
La fraternité ne peut être vécue qu'en fonction de la filialité vécue. Qui ne doit rien à son père ne doit rien à ses frères. Comment l'Église serait-elle une communauté fraternelle si elle n'avait son fondement en le Fils de l'homme ? Elle cesserait d'être l'Église si, cessant de se considérer comme une société d'hommes coupables devant Dieu, elle cherchait un autre rapport avec Dieu que celui de l'obéissance du Fils crucifié à la volonté du Père. Comment la société démocratique peut-elle être une communauté fraternelle dès l'instant que, se référant exclusivement à l'éthique, elle prétend ne se composer que d'individus innocents? La loi morale ignore toute affinité entre le coupable et l'innocent, entre la victime et le bourreau. Aux yeux de l'éthique, l'innocent suppose irrévocablement la négation du coupable. La victime reste éternellement victime, le bourreau éternellement bourreau. L'homme censé ne vouloir que le bien général est foncièrement bon, l'homme censé ne vouloir que son bien propre foncièrement mauvais. Tout comme le gouvernement terroriste, l'éthique n'est en révolution qu'à l'état de guerre. Ce n'est que grâce aux ennemis de l'extérieur qu'elle discerne des suspects parmi ses ressortissants. Car il est dans la nature d'une instance abstraite de n'avoir de concret que la négation. Et voilà pourquoi le dernier bénéficiaire des concepts de volonté générale et de souveraineté populaire a été le racisme allemand. Si paradoxal que cela puisse sembler aujourd'hui.
Comme tous les grands textes ou les textes importants qui paraissent dans une temporalité qui est celle d'une revue, donc qui sont liés fondamentalement au présent, c'est des textes qui, lus 80 ans ou plus maintenant après, sont à la fois inspirants et en même temps datent de leur, du moment de leur écriture. Ici, Klossowski est à la fois quelqu'un, je dirais, qui pose des questions qui demeurent actuelles et quelqu'un qui les pose dans un cadre qui certainement n'est plus le nôtre. Elles demeurent actuelles parce qu'elles sont liées à la question du rapport finalement entre la démocratie définie comme souveraineté du peuple et le totalitarisme. Et l'idée qu'on ne peut pas se contenter au fond d'une opposition terme à terme entre ces deux termes, puisque c'est précisément au nom du peuple, d'une certaine conception du peuple, que par exemple l'hitlérisme s'est constitué, mais évidemment autour du peuple comme race. Et donc, dans des formulations les plus scandaleuses, en quelque sorte, de ce texte, en première apparence, à savoir lorsque Klossowski dit que le dernier avatar de la volonté ou de la souveraineté populaire, c'est le nazisme, il y a quelque chose que l'on peut entendre encore, c'est-à-dire une conception de la démocratie comme unité du peuple absolument sans fissure, comme société absolument regroupée autour de la masse, et de cette conception souverainiste, on dirait aujourd'hui, à la conception totalitaire, il y a au moins des ponts. Encore faut-il, et Klossowski insiste, que pour faire unité, il faut déclarer la guerre à un adversaire. Et la spécificité du nazisme, peut-être n'y insiste-t-il pas assez, c'est d'avoir affirmé que l'adversaire était intérieur au peuple, donc en l'occurrence les juifs, étaient une sorte d'ajout au peuple ou même de virus intégré au peuple, conception sur laquelle évidemment se sont fondées les politiques d'extermination. Alors la limite évidemment de cette conception, sans doute, c'est que Klossowski, et la suite de son œuvre le marquera aussi, est quelqu'un qui abandonne en quelque sorte la démocratie à son devenir totalitaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pensée positive du tout de la souveraineté, de la possibilité et d'affirmer que le peuple n'est peut-être pas souverain au sens où il prend la place de Dieu, du Père, dirait Klossowski, où il affirme une fraternité absolue sans Père, mais au sens où il cherche, enfin où en tout cas la démocratie cherche à investir la possibilité de nommer la politique dans les termes de la volonté. Et au fond, Klossowski anticipe déjà, de ce point de vue-là, c'est la limite à mes yeux de ce texte, il anticipe déjà sur un certain nombre de critiques qui feront de la Révolution française l'ancêtre en réalité des régimes totalitaires, c'est-à-dire de cette idée saugrenue qu'a eu le peuple français de vouloir prendre ses affaires en main et de tuer son roi. Et de ce point de vue-là, Klossowski, qui est encore dans une perspective tout à fait chrétienne à ce moment-là, considère finalement qu'il ne peut y avoir de fraternité que s'il y a un père, un ordre symbolique, on dirait, et que s'il n'y a plus de père, il n'y a plus que des frères prêts à se dévorer entre eux, selon un peu le modèle d'ailleurs freudien de totem et tabou. Même les points de désaccord que l'on peut avoir rétrospectivement marquent la grandeur de la tentative initiale, c'est-à-dire de vouloir tout de même expliquer Dans le temps présent, en 1938, au moment où les grandes explications du totalitarisme que nous connaîtrons après de Arendt à Lefort n'ont pas évidemment été écrites, de comprendre ce présent en l'éclairant par ce qui est plus ancien, par ce qui n'est pas le présent immédiat. Et au fond, ce texte est actuel au sens où il n'est pas dépendant seulement de son moment d'énonciation. Il pose déjà, y compris dans ses aspects problématiques, des questions qui ne cesseront de se poser après la guerre, une fois qu'on aura en quelque sorte fait le bilan catastrophique d'ailleurs des pays totalitaires, qui est de savoir comment, dans le même temps, s'est constitué l'impératif démocratique de volonté souveraine et sa négation la plus extrême dans le fascisme ou le stalinisme. Alors ce texte, comme la plupart des grands textes parus dans les années 30, a un mérite par rapport au diagnostic contemporain sur l'état de la démocratie, c'est qu'il ne laisse pas beaucoup de place, je dirais, à cette idée qui s'est emparée de beaucoup, selon laquelle on pourrait sortir de la démocratie de manière joyeuse. Au fond, il y aurait une post-politique un peu au profit de l'économie, justement, au profit de la prospérité, au profit d'un individualisme triomphant. Il y aurait une manière de ne plus faire de la politique qui serait une manière d'échapper justement au totalitarisme, c'est-à-dire à l'héritage de ce qu'il y a de plus sanguinaire dans la politique du XXe siècle. Il marque la limite de cette conception parce qu'il montre bien que, y compris dans le consumérisme économique, dans ce choix de la prospérité, du travail, de sa propre réussite individuelle contre le politique, eh bien, cela ne va pas sans des affects de ressentiment, cela n'est pas constitué, je dirais, sur un plan qui soit un pur plan économico-social. Ce que Klossowski appelle ici religieux, au fond, on pourrait aussi bien le nommer comme ce qu'il y a d'intraitable dans le politique et qui fait qu'il ne suffit pas de dire que les réseaux sociaux, le consumérisme généralisé, l'hédonisme joyeux constituent en quelque sorte des alternatives aux politiques. On le voit aujourd'hui, ce qui attaque la démocratie, ce qui est au fondement de la dédémocratisation, ce sont des passions autoritaires qui sont peut-être moins spectaculaires qu'elles ne le furent quand elles se manifestaient par des manifestations de rue en chemise brune ou noire, moins spectaculaire que dans les années 30, mais qui n'ont pas disparu ces affects de haine pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'égalité démocratique, n'ont pas disparu sous prétexte qu'elles prennent des voies virtuelles. Il y a dans les passions antidémocratiques toujours et constamment, je dirais, des volontés de destruction de tout ce qui contredit en quelque sorte le dogme, que ce dogme soit totalitaire, fascisant ou qu'il soit stalinien. Et de ce point de vue-là, c'est un texte qui nous rappelle aussi à la gravité du moment. Bien sûr, les analogies avec les années 30 ont leurs limites, mais à l'heure de la fascisation d'une partie de l'Europe, il est bon peut-être aussi de se rappeler que certains esprits lucides ont vu que le présent n'était pas soluble dans la prospérité économique.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Hortense Bellotte. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.